Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Salut à tous et bienvenue pour ce 467e volet du podcast Touchdown Actu avec un nouveau numéro draft aujourd'hui pour s'intéresser à l'une des positions de la prochaine QV 2022. Retour en défense dans cette émission avec les safety à l'honneur. Kyle Hamilton est-il un talent générationnel? Quels sont les profils les plus polyvalents de cette année qui a le parfait profil du sleeper? Des questions qu'on va se poser aujourd'hui en compagnie de l'habituel, de l'inénarrable, compliqué à dire, hein. Jean-Michel Boujard. Si je commence à écorcher ton nom, en plus, ça ne va pas. Jean-Michel Boujard. Bonjour, Jean-Mi.
Oui, bonjour. Non, je suis narrable. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais. Salut, Greg. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Un plaisir de te retrouver comme d'habitude. On va passer pas mal de temps ensemble pendant ces fêtes. On en profite d'ailleurs pour souhaiter un joyeux Noël à nos auditeurs. Mais voilà, on va en profiter puisque le podcast draft ne s'arrête jamais jusqu'au mois d'avril. Il faut le rappeler. Encore et toujours, et ce, même pendant les fêtes. Je le disais, Jean-Michel, dans cette émission, on va aborder notamment les safety, classe, danse. On a tendance à se répéter, mais en tout cas, défensivement, on l'a souvent dit, et ça ne fera pas exception à la règle avec cette position. On va d'ailleurs commencer avec notre tier 1, et notamment une superstar à l'honneur venue de South Bend.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Kyle Hamilton, donc, safety des Notre-Dame Fighting Irish. Alors, je vais vous donner ses stats tout de suite. On va le préciser tout de suite. Jean-Michel, c'est un des rares joueurs qu'on va aborder dans cette émission qui n'a pas pu faire sa saison entièrement en raison d'une blessure qui a écourté son exercice 2021. Du coup, on n'a pas forcément des échantillons 2020-2021 forcément très établis, même si paradoxalement en 2020 Notre-Dame restait un des programmes qui avait le plus joué par rapport à d'autres conférences, par exemple l'année où ils avaient intégré l'ACC. En attendant, en 2021, les stats de Kyle Hamilton, je vais les retrouver tout de suite, en 7 matchs, c'est quand même 34 plaquages, 3 interceptions, 4 passes défendues. Alors, sur le principe et sur le papier, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, Jean-Michel, c'est l'impact du joueur. On parle très clairement d'un des talents les plus versatiles. Très clairement, ce qui est le plus recherché chez les safety ces dernières années.
Ah ben exactement, c'est sa qualité première, hein, la polyvalence. C'est-à-dire qu'en gros, il a tout et il sait tout faire. Donc à partir de là, c'est l'arme défensive par excellence, quoi. C'est quelqu'un que tu peux déployer d'un jeu à l'autre avec des assignations différentes. C'est-à-dire que tu peux lui dire de surveiller le coureur et donc défendre la course. C'est un bon plaqueur, donc il n'y a pas de problème. Tu peux lui dire, et quand je parle de course, je parle d'aller directement sur le coureur, mais je parle aussi de le chasser d'un côté à l'autre. Comme on entend souvent, sideline to sideline, ben voilà, je veux dire, même s'il est aligné un peu plus vers la gauche et que le coureur part vers la droite, ben il n'y a pas de souci, il va traverser toute la largeur du terrain. Il peut le rattraper, il a cette vitesse-là. C'est un joueur qui est bon en couverture, donc ça veut dire qu'il peut offrir une prise à deux au cornerback, ça veut dire qu'il peut lui-même couvrir quelqu'un en marquage, que ce soit un receveur, que ce soit un tight end. Alors, ce n'est pas un cornerback, hein, je veux dire, mais il peut le faire par séquence, suivant les jeux. Il peut évidemment faire du blitz. Et puis, au niveau de ses qualités intrinsèques, ben, il a tout, je veux dire, il est grand, il a du jump, il va vite, il a de l'intelligence de jeu également. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment tout. Alors, je vais parler d'un joueur NFL qu'on connaît. Les deux joueurs sont différents, mais les deux ont un peu ces caractéristiques où ils ont tout et un gabarit incroyable. C'est Derwin James, des Chargers. Voilà, ce joueur que tu peux prendre. Si tu as un coordinateur défensif inventif, mais il va se régaler avec Kyle Hamilton. Voilà, il a tout. C'est incroyable.
Moi, je suis d'accord avec toi. Il me rappelle même sur certains points. Alors, j'essaie juste de voir un petit peu au niveau du poids. Parce qu'en effet, Derwin James, c'est ce qui saute assez souvent aux yeux. Mais Alors, il est un peu plus léger, mais dans son côté justement polyvalent utilisation, même si leur utilisation justement n'était pas du tout la même à l'université dans leur fac respective, il y a un côté à Isaiah Simmons dans ce qu'il est capable, dans le volume de jeu qu'il est capable d'avoir. Et encore une fois, surtout ce qui est mis en avant dans son profil, c'est l'aptitude à brouiller les cartes du quarterback dès le snap.
Ah oui, bien vu. Oui, bien vu. Oui, effectivement. Oui, alors bon, j'allais dire, il est un peu plus safety que Simmons. C'est vrai
Oui, oui,
que Simmons a joué safety aussi à Clemson, hein, mais après, il s'est vite quand même rebasculé en linebacker. Mais bon,
oui. D'accord.
en même temps, oui, il y a une différence entre safety et linebacker, bien sûr. Surtout qu'Hamilton, il apporte quand même beaucoup en couverture, mais c'est quand même des joueurs qui jouent souvent à peu près dans la même zone du terrain. Donc, oui, effectivement. Et puis cette polyvalence qu'avait Simmons et qu'a effectivement Hamilton, oui, je te rejoins.
Et est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et ce qu'on va peut-être aussi aborder avec le deuxième prospect du tiers 1, avec Kyle Hamilton, au-delà de toutes les compétences, on dira techniques, physiques, athlétiques, c'est que c'est un leader. Ça a été un leader dans une équipe de Notre-Dame qui a fait partie des principaux fers de lance cette saison, hein. C'est une équipe qui était encore jusqu'au bout pour les playoffs. Alors encore une fois, il a joué la moitié de la saison, donc c'est peut-être à relativiser, mais au-delà de l'impact qu'il avait sur le terrain, on a vu qu'il était extrêmement impliqué. Même en bord de touche, en participant énormément au sein du staff, enfin voilà, en s'investissant énormément, et on sent que voilà, c'est un joueur de vestiaire et c'est un leader vocal sur et en dehors du terrain. Et ça peut pas forcément faire de mal à une équipe NFL, qui peut avoir besoin de repères sur des momentums un peu plus compliqués.
Ah non, c'est même très précieux, c'est même très précieux. Et puis c'est vrai qu'il a joué que 7 matchs cette année, mais rien que l'année dernière, il était déjà là. Alors qu'il était que sophomore. Déjà l'année dernière, tout le monde voyait Kyle Hamilton, il avait déjà éclaboussé de sa classe et de son talent le football universitaire. Donc, je veux dire, même s'il a un peu moins joué cette année, franchement, il n'y a aucune inquiétude, hein.
Oui, tout à fait. Bah oui, mais enfin, voilà, même dès 2019, en tout cas, c'était un joueur qui crevait l'écran. Il avait déjà fait 4 interceptions, dont un pick six à l'époque. Donc voilà, c'est clairement un joueur établi dont on parle. Malheureusement, sa blessure n'est pas arrivée au meilleur moment pour lui permettre vraiment de surfer sur cette vague-là. Après, très franchement, on est dans une QV à l'heure où on se parle encore très homogène, ce qui lui permet très franchement de faire partie peut-être des 5 meilleurs joueurs du panier. Je ne sais pas si on peut s'avancer là-dessus, mais moi en tout cas, ça a quasi tout le temps été mon top 5 de par les différentes capacités qu'il a, le top 5 global de cette draft, quoi.
Ah, mais c'est clair qu'il est top 5.
C'est plus son
Après,
profil, c'est plus son poste concrètement qui le dessert malgré la polyvalence qu'on évoque.
ben voilà, exactement. Après, il est top 5, mais après, il joue safety. Il joue safety. Alors, c'est précieux, et comme on l'a dit, c'est pas un safety. Lui, il sait tout faire. Donc, du coup, voilà, c'est plus une arme défensive. Donc, ça peut jouer en sa faveur aussi. Mais sinon, au départ, c'est quand même un safety. Et bon, cette position, elle a quand même moins d'impact qu'un pass rusher, moins d'impact qu'un cornerback. On le sait, de toute façon, le top 5 de la draft, même si lui, c'est un joueur top 5, parce qu'on prend tous les joueurs, mais je pense que dans le top 5 de la draft, il y aura au moins un quarterback, il y aura au moins un offensive tackle, il y aura au moins deux pass
De pass
rushers, il y
rusher.
aura, voilà. Donc, du coup, déjà, forcément, tu glisses un peu. Et puis après, quand tu arrives même à 5, 6e, tu te dis quoi? Tu te dis, je prends plutôt un corner ou je prends plutôt un safety? Et franchement, dans ce sport, dans le football américain, même si une arme défensive comme lui, c'est très, très précieux, mais un corner, c'est tellement important. Même si un corner, il va faire moins de choses, mais bon, un cornerback, c'est tellement important. Donc, c'est un top 5, c'est un joueur top 5, mais est-ce que ça sera un top 5 de la draft? Je ne suis pas certain. Et puis quand on voit par exemple un Jamal Adams qui a été pris, je crois que c'était 6e, il a été pris, et qu'on voit que c'est un très bon joueur, Jamal Adams, il n'y a pas de souci, c'est un très bon safety. Mais est-ce que vraiment, enfin voilà quoi, moi franchement, je préfère un top cornerback qu'un top safety. Est-ce que ça peut pas jouer
Bah
contre lui?
c'est souvent ce qui dessert un peu, à mon sens. Enfin, on va pas faire trop long sur Kyle Hamilton parce qu'il y a d'autres profils derrière, mais voilà, tu prends l'exemple de Jamal Adams, c'est vrai, j'y pensais, c'est vrai que Jamal Adams avait ce côté monstre physique. C'est-à-dire que, enfin, monstre physique et athlétique, la globale, mais voilà, vraiment un spécimen qui pouvait faire saliver beaucoup de front office. Et j'ai par exemple, on parlait de Derwin James tout à l'heure, l'année où Derwin James est drafté, il me semble que c'est la même année que Minkah Fitzpatrick, deux defensive backs étaient extrêmement hybrides. Peut-être un peu moins imposant physiquement, mais des joueurs qui, on l'avait vu d'un point de vue QI foot et d'un point de vue polyvalence, c'était extrêmement intéressant. Il y en a un qui est drafté 5 ou 6, en effet, lors de sa QV, et les deux que j'ai cités avant, hors du top 10. Donc c'est un peu, en effet, pour revenir à ce qu'on disait, c'est un peu ce qui peut jouer contre Kyle Hamilton, surtout une année où il se blesse. Mais concrètement, ouais, On parle du très très haut du panier en vue de la QV 2022 d'ailleurs, mais c'est pas un mystère, il s'est d'ores et déjà annoncé en vue de la prochaine draft. Donc ça, en l'occurrence, voilà, ce sera pas quelque chose à relativiser en vue des prochaines inscriptions. Le deuxième joueur de ce tiers 1 dont on va parler, c'est que je le retrouve sur mes fiches, Jaquan Brisker, pardon, le safety de Penn State, safety donc senior des Nittany Lions. Cette saison, c'est 63 plaquages, dont 6 pour perte en 12 matchs, et c'est 5 passes défendues pour 2 interceptions. Là aussi, très clairement, Jaquan Brisker, on parlait de leader défensif, ça a clairement été un leader. Dans l'une des défenses les plus intimidantes, on en avait déjà parlé, hein. On a évoqué dans des précédents podcasts Arnold Ibiketie sur la ligne défensive, Brandon Smith sur le poste de linebacker. Est-ce que ce n'est pas vraiment l'esprit défensif de cette grosse armada que possédait Penn State, Jaquan Brisker?
Ah oui, je pense, ouais, de par ses qualités. Et parce que lui aussi, il est polyvalent. Lui aussi, il peut défendre la course, il peut défendre en même temps la passe aussi, il peut faire les deux. D'ailleurs, en NFL, je pense qu'il pourra jouer n'importe lequel des deux postes. Mm-hmm. Alors, des fois, les deux postes, ils sont interchangeables. Ça dépend des systèmes défensifs.
Oui, oui, de toute façon, dans la NFL moderne, oui, surtout avec les deux, trois safety qui évoluent, ça switch assez souvent. Ouais.
Voilà, exactement. On voit la plupart du temps, il y a 5 defensive backs. Et donc, lui, cette polyvalence, elle permettra d'être sur le terrain sur les 3 tentatives. Mm. Mais en plus, alors ce qui joue aussi pour lui, c'est que par rapport à Hamilton, il a quand même beaucoup plus d'expérience, il est un petit peu plus âgé, et il était passé par un community college avant d'arriver à Penn State, donc il a un petit peu plus de vécu, un petit peu plus d'expérience, et c'est ça aussi, à mon avis, qui a pu affirmer son côté de leader. Et puis alors, ce qui est vraiment marquant chez lui, c'est ses capacités athlétiques, parce qu'il est très, très athlétique. Voilà, c'est quelqu'un... Déjà, il a une belle cote de ce qu'il a montré avec Penn State. Une fin de premier tour, maximum début de deuxième tour, à mon avis. Mais je veux dire, lui, il peut cimenter son statut de premier tour sûr avec le combine. Et le combine, c'est important à toutes les positions, parce qu'être athlétique, c'est primordial pour un safety. Pour toutes les positions, c'est important, mais plus encore pour un safety. C'est des joueurs qui jouent dans l'axe du dernier rideau. Donc, il faut être athlétique pour pouvoir vite intervenir contre la course, pour pouvoir suivre des Titans qui, eux, sont de plus en plus athlétiques. Pour pouvoir sprinter en profondeur et offrir une prise à deux ou marquer un receveur, il faut avoir du jump aussi pour défendre les réceptions. Et il a tout ça, donc il est très athlétique. Donc le combine, ça compte. Ça compte encore plus pour un safety. Et je pense que Jaquan Brisker, il peut marquer des points justement lors de cet événement.
Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que pour le coup, depuis le début de ces podcasts position, on s'aperçoit malgré tout qu'il y a énormément de joueurs de Big Ten. C'est pas un hasard, hein, de toute façon, parce que Michigan est en playoff, Ohio State n'en était pas si loin que ça. Mais c'est vrai qu'il faut voir aussi comment ça joue dans la Big Ten. Et c'est vrai que tu parlais notamment de la capacité à défendre sur les tight ends. On sait que le jeu au sol, l'aptitude à utiliser les tight ends, c'est une des marques de fabrique de cette conférence. On a vu que Jaquan Brisker, du côté de Penn State, s'en est très bien sorti. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu des attaques très, très bien huilées dans les airs, notamment Ohio State, par exemple, où il n'a pas démérité. Donc voilà, il y a en effet, si on cherche des références pour beaucoup de joueurs, ce sera sans doute un peu moins le cas pour Jaquan Brisker, parce qu'il y a quand même un échantillon assez vaste. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué avec ce type de joueur, au-delà en effet du côté voilà, là encore QI foot et polyvalence globale, c'est sa discipline. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit. J'ai été très étonné de voir, c'est un joueur qui n'a pas été pénalisé sur les deux dernières saisons, que ce soit dans une défense de Penn State dominante cette saison ou dans une défense beaucoup plus en difficulté à l'image de l'équipe en règle générale en 2020. Et on s'aperçoit, et tu le disais, pour un joueur qui peut être amené à jouer beaucoup sur de la couverture, le fait de ne pas être pénalisé, voilà, c'est aussi le fait de montrer l'exemple et de savoir jouer sur ses forces sans être mis constamment, on va dire, en position délicate. Et ça, Jaquan Brisker l'a très bien fait du côté de Penn State, même si certains détracteurs pourront mettre à son discrédit que voilà, il était bien entouré du côté de Penn State. Mais encore une fois, on l'a déjà dit, par exemple, avec Nakobe Dean du côté de Georgia, c'est peut-être pas uniquement les joueurs autour de lui qui l'ont fait briller, mais peut-être aussi l'inverse. Donc, c'est aussi des choses à prendre en considération. Et c'est pour ça qu'il paraissait important de mettre Jaquan Brisker à l'honneur, comme on l'a fait également précédemment avec Kyle Hamilton.
Oui, on se rappelle notamment de son interception contre Ohio State, justement. Mm-hmm. Donc, ouais, non, c'est un excellent joueur. Et puis, oui, ça marche dans les deux sens. Hein. Je veux dire, être bien entouré, je veux bien. Forcément, ça aide. Si tu as une défensive qui fait un très bon boulot devant, ben, ça t'aide toi derrière. Mais bon, c'est aussi parce que toi, tu fais un très bon boulot derrière que tu aides ta ligne défensive. Donc,
On est d'accord. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur Kyle Hamilton et Jaquan Brisker. On peut enchaîner sur le tier 2 et on va rester justement dans la conférence Big Ten.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et alors, vous vouliez de la polyvalence, ben vous allez être servi puisqu'on va dès à présent aborder Daxton Hill, safety de Michigan. Safety, entre autres, hein, en l'occurrence, hein, et il sait faire pas mal de choses, le bonhomme. En tout cas, cette saison, c'est 65 plaquages, donc 4,5 pour perte, 7 passes défendues et 2 interceptions. Je taquine un petit peu sur son statut de safety. Alors, il a été recruté en tant que safety et joue principalement dans le backfield défensif, faut pas s'y tromper. Maintenant, je crois qu'il a été nommé dans la first team Big Ten de la saison en tant que joueur flex, donc on va dire joueur extrêmement hybride. Là, on reste très clairement sur le profil hyper polyvalent. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu vois de Daxton Hill régulièrement avec les Wolverines?
Son côté flex. J'aime bien ce mot, tu vois. Il est flex. Mais oui, mais c'est ça exactement. En fait, tu vois, alors, les deux joueurs sont très différents, etc. C'est juste pour dire que Minka Fitzpatrick, sa dernière saison à Alabama, il jouait beaucoup nickel cornerback. Et c'est le cas de Daxton Hill. Ce sont pas les mêmes joueurs, hein, mais pour dire que voilà, c'est la même utilisation lors de leur dernière année universitaire. C'est pour ça que tu vois, tu te demandais est-ce qu'il est safety, pas safety, etc. Mais en fait, il est très, très souvent aligné nickel, c'est-à-dire qu'il va marquer les receveurs dans le slot, c'est-à-dire à l'intérieur du terrain. Mais c'est très, très précieux, ça. C'est très, très précieux. De toute façon, on le sait déjà dans ce sport, il faut défendre la passe, c'est une priorité. Mais en plus, c'est de plus en plus vrai à NFL. Donc, si tu as un safety qui sait défendre la passe en priorité, ben c'est très précieux, que ce soit sur la profondeur ou que ce soit dans le slot. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. En plus de ses excellentes qualités athlétiques, en plus, c'est un très bon joueur, très intelligent. Il arrive à reconnaître très vite ce qui se passe. Il réagit très vite. Je pense notamment quand un quarterback essaye de se sauver, qu'il lance une screen d'Axton Hill, même s'il était, mettons, au marquage d'un receveur dans le slot, hop, vite, il percute et puis il sprint et il va attraper le gars qui a pris la screen. Il est très intelligent. Mais cette polyvalence et cette capacité à être un defensive back, ben c'est très, très précieux.
Oui, c'est ça. C'est un joueur qui a été énormément utilisé dans le slot. J'allais dire, c'est un joueur qui peut éventuellement, on va dire, je ne sais pas comment formuler ma pensée, mais ouais, qui ne va pas laisser indifférent dans le sens où on peut aimer comme ne pas aimer. Il me rappelle beaucoup, si on prend des profils un petit peu, enfin voilà, si on prend des comparaisons, il y a un côté Xavier McKinney quand même en sortie d'Alabama.
Ouais. Ou même un David McCourty, des Patriots, voilà, type de gars que, ben justement, tu te demandes est-ce qu'il est cornerback, est-ce qu'il est safety, ben il est defensive back, écoute, voilà. Et donc, du coup, ben, tu vas pouvoir l'utiliser de diverses façons, et en plus, ça peut feinter l'attaque adverse, et ouais, très bon joueur, ouais.
Si tu veux le situer à l'heure où on se parle, hein, bien entendu, ça peut encore largement évoluer, on le rappelle, voilà, avec tout ce qui est Senior Bowl, Combine, etc. Les cartes vont être distribuées pas mal dans les prochaines semaines. Vers quel tour tu le verrais? Moi, je t'avoue que ça peut être une solide deuxième partie de deuxième tour.
Oh oui, je pense, ouais. Même peut-être un poil avant, parce que justement, cette capacité à aussi jouer cornerback entre guillemets, quoi, ça peut même le mettre en haut du deuxième tour, ça peut, je pense, ouais. Ouais. Après, comme on a dit, il est très très athlétique comme gars, donc voilà, s'il défonce le combine d'Indianapolis en février, oui, il peut même encore monter en fin de premier tour, et, ouais.
On est d'accord. On passe à présent à Jordan Battle, safety d'Alabama. 74 plaquages en 2021, dont un pour perte, 3 passes défendues et 3 interceptions, dont 2 pick 6. On en parlait un petit peu en off. Sur le papier, c'est un profil de strong safety. Maintenant, de par ce que j'évoquais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que sur la couverture, il soit forcément à plaindre.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, par exemple, le match début, tu regardes un petit peu les joueurs alignés sur le terrain, tu le vois à lui, et tu dis, bon, ben, lui, c'est le strong safety. OK, il est grand, il est costaud, il a vraiment ce gabarit-là, etc. Mais en fait, il est très bon en couverture. Il est très bon en couverture. Alors, il fait pas autant d'interceptions que d'autres joueurs, etc., mais il défend des passes. Des fois, il empêche tout simplement le quarterback de lancer dans sa direction parce qu'il est là au marquage. Il est très bon en couverture. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez Jordan Battle, c'est qu'en fait, il sait vraiment faire les deux, quoi. C'est quelqu'un qui, ben, lui, il me rappelle justement un ancien Alabama, Landon Collins, à sa sortie d'Alabama. C'est un peu le même profil, tu te disais, et un peu le même gabarit, d'ailleurs, je trouve. Et tu te disais, ben, c'est un gars qui est très complet, qui peut faire les deux. Il peut défendre la course, il peut défendre la passe. Ah ouais. Et je pense que c'est un joueur qui, en plus, est vraiment pro-ready. Voilà.
Oui.
C'est-à-dire, déjà, de par sa formation à Alabama, etc. Je veux dire, il y a tellement de bons joueurs à Alabama que tu joues que si tu es bon. Sinon, tu joues pas. Il y a du monde pour prendre ta place, hein. Et puis, Alabama, ça veut dire des gros matchs. Ben, encore cette année, il va jouer les playoffs. Donc, ça veut dire qu'il affronte des oppositions de qualité. Ça veut dire que les matchs à pression, en jeu, il connaît. Il n'y a pas de problème. Et moi, je pense que ça peut être un capitaine de défense. Et puis, attends, un gars avec un nom comme ça, moi, je le veux dans ma défense.
Oui, on peut voir ça comme ça, en effet. Et on attend les jeux de mots, d'ailleurs, quand il sera dominant et qu'on appellera ça The Battlefield. On attend de voir ça avec impatience. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que tu le disais, et en plus, c'est vrai qu'il y a une classe assez jeune, hein, faut le savoir, qui arrivait du côté de Bama au niveau des defensive backs, qui a vraiment bien, bien poussé et qui a pris notamment certains spots sur le poste de safety. Et très clairement, un des rares, entre guillemets, vétérans, parce que de toute façon, ça reste par définition des joueurs très jeunes dans le roster, qui a tenu la barre à sa position, c'est Jordan Battle. Et même globalement, alors c'est vrai qu'on avait eu la discussion notamment concernant Christian Harris sur un précédent podcast. Je ne nommais pas, bien entendu, Will Anderson, le edge rusher d'Alabama, qui n'est pas éligible cette année, qui a été absolument monstrueux. Mais derrière lui, si tu cherches un taulier absolu de la défense de Bama, pour moi, Jordan Battle se situe là, parce qu'il a ce volume de jeu. Et encore une fois, cette capacité, et c'est, enfin, je vais beaucoup me répéter, mais c'est souvent ce qu'on recherche chez un linebacker, mais aussi chez un safety qui est capable de faire énormément de choses et de couvrir énormément de zones du terrain, c'est d'être un leader vocalement et par l'exemple, et très clairement, Jordan Battle est capable de le faire. Il suffit ne serait-ce que de sortir le match contre Georgia, par exemple, où il a une influence énorme et où c'est lui qui scelle le sort du match. Dans une rencontre qu'Alabama domine, mais où on se dit qu'à un moment donné, peut-être Georgia va reprendre un petit peu du poil de la bête. Bah non, c'est lui qui met le coup de massue derrière. Donc voilà, très clairement, là aussi, moi, je le mets peut-être aux alentours, pareil, peut-être deuxième, peut-être début troisième, grand maximum. Mais ça me paraît être un joueur, là encore, c'est plus la densité qui joue contre lui et l'extrême polyvalence des joueurs qu'on a cités précédemment. Mais voilà, très clairement, il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire, à mon sens.
Oui, c'est ça. Et il ressemble à une valeur sûre. Alors, on le dit toutes les semaines, valeur sûre et draft dans la même phrase, ça se dit pas, mais il ressemble quand même à une valeur sûre, quoi. Et puis, la semaine prochaine, il y aura un article, évidemment, sur les demi-finales des playoffs. Et je reprends une chose que tu dis, c'est-à-dire que par rapport à tous les jeunes, tous les Malachi Moore, Brian Branch, Khaled McKinstry, etc., eh ben, avoir un Jordan Battle, aussi un peu un Josh Jobby, mais surtout Jordan Battle derrière, eh ben, ça a permis justement de cimenter cette secondary d'Alabama. Parce que, en plus de son talent, en plus de sa polyvalence, ben, c'est vraiment le leader, c'est vraiment le gars qui peut rectifier quelque chose, ne serait-ce qu'avant le snap, et de dire non, toi, vas-y, fais attention, mets-toi là. Toi. Voilà, ça peut être un capitaine de défense à NFL.
On termine avec le tiers 2, notre troisième profil. Alors là, à mon sens, on sort un petit peu du côté polyvalent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, on est peut-être plus sur du profil pur free safety, mais un très bon free safety en l'occurrence, puisqu'on va parler de Veron McKinley, safety donc d'Oregon, que je retrouve les stats tout de suite. Veron McKinley, cette saison, c'est 71 plaquages, 6 passes défendues et 5 interceptions. Donc, encore une fois, il y a un côté playmaker clairement à mettre à son crédit. Maintenant, oui, c'est peut-être excellent sur la couverture, mais un peu plus limité dans d'autres domaines.
Oui, ben déjà de par son gabarit, il n'a pas un très gros gabarit en fait. Pour donner une image, ce serait une sorte de Buda Baker des Cardinals, quoi. Il n'a pas un très gros gabarit. Mais par contre, ben, c'est un joueur qui a été recruté comme cornerback et ça se voit sur le terrain. Tu l'as dit, il a fait 5 interceptions cette année. Il en est à 10 interceptions en carrière. Voilà, il a des sacrées qualités en couverture. Et donc, ça, forcément, ça ne peut que intéresser les franchises NFL, puisque voilà, c'est une ligue qui passe beaucoup par les airs. Si tu as un arrière défensif comme ça qui te permet de défendre la passe, ben, c'est très, très précieux. C'est un joueur qui est très intelligent. Et ça, c'est peut-être la qualité primordiale, finalement, pour un safety d'être intelligent, parce que de par leur position, il faut bien comprendre que s'ils font une erreur, ça se paye cash. Voilà, ils sont sur le dernier rideau, ils sont en plus dans l'axe, donc si le mec il est pas intelligent qui se foire, ben tu peux de suite encaisser un touchdown. Et lui il est intelligent et il comprend très bien les trajectoires. Voilà, je viens de le dire, c'était un cornerback, etc. Il sait comment ça se passe, les tracés d'un receveur, il sait où un cornerback va les rechercher, les pôles extérieurs, tout ça, il connaît très par cœur. Donc oui, c'est quelqu'un de très précieux. Il a pas un gros gabarit évidemment. Alors bon, comme tu l'as dit, il a quand même fait des plaquages, mais en NFL ça serait peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est pas un mauvais plaqueur. Mais par contre, en couverture, oui, il peut vraiment apporter. Et je pense que lui aussi, il pourrait peut-être même occuper un poste de nickel cornerback.
Oui, sans doute, c'est une possibilité. Après, sur le plaquage, ouais, en fait, si tu veux, je le trouve très frustrant dans le sens où tu sens qu'il a la capacité. Et il avait montré, je trouve, du développement, notamment la saison dernière, par rapport aux petites lacunes qu'il avait dans ce domaine-là. Mais en 2021, c'est vrai que sur le run-stop, des fois, on le sent. Alors, je ne sais pas si c'est un peu trop facile, mais il y a peut-être un peu trop de plaquage où on l'a senti. C'est peut-être le fait d'être en contact de Kevin Thibodeau, qui sait, mais.
mais non, voilà. Soyons positifs, en fait. Non, c'est parce qu'il disait oui. Noah Sewell va le faire, je vais laisser Noah Sewell aller plaquer. Voilà. Et puis après, ouais, il dit non, ah peut-être. Non, mince.
Non, ouais. Peut-être, oui. Mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, sur le plaquage, il me paraît encore extrêmement perfectible. Encore plus, enfin, surtout, moi, je prends la comparaison par rapport aux autres profils qu'on évoquait. Après, voilà, il y a des matchs. Le principal match de référence d'Oregon, si on prend la saison 2021, c'est forcément leur victoire autoritaire du côté d'Ohio State face à une grosse attaque, même si le quarterback d'Ohio State, freshman, ou en tout cas très jeune d'Ohio State, était un petit peu encore en transition, entre guillemets. Ça restait déjà une attaque hyper explosive. Et Verone McKinley, à mon sens, dans un match en plus où Thibodeau, pour le coup, n'était pas là, a été un des principaux fers de lance, un des principaux leaders défensifs qui a permis d'annihiler sur la distance cette attaque des Buckeyes. Donc voilà, ça montre que dans des grands rendez-vous, il est capable de sublimer. Ça n'a pas été un des plus mauvais non plus du côté d'Oregon pour la finale de Pac-12 qu'il a joué contre Utah. Donc voilà, on voit que sur des rendez-vous importants, c'est un joueur qui est capable de se sublimer et en effet d'être un véritable poison en couverture. Voilà, après, il ne fera pas fantasmer tous les coordinateurs. Contrairement à d'autres là encore. Donc pour moi, de toute façon, je l'imagine facilement drafté dans les trois premiers tours. Je le vois difficilement descendre en bas. Après, tout dépendra de la cote d'amour qu'il a auprès des différents front office.
Oui, et puis tu parlais de son côté leader. Ben, faut savoir qu'à Oregon, son surnom c'était le général. Voilà, ses coéquipiers, les entraîneurs, enfin tout le monde l'appelait le général. Donc c'est un leader aussi. Donc ça joue également pour lui.
Tout à fait. On termine du coup avec le tier 3 de cette classe de safety.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On va commencer du coup avec un profil qui avait marqué énormément de points, notamment lors de la saison 2020 hein, avec son camarade Greg Newsome du côté de Northwestern. On va parler de Brandon Joseph, donc safety des Wildcats. Brandon Joseph, cette saison, c'est 79 plaquages, 4 passes défendues et 3 interceptions. Alors, je vais le dire tout de suite, hein, Jean-Michel, je sais qu'on n'était pas forcément… Alors, je vais pas dire qu'on était en désaccord parce qu'il faut peut-être pas exagérer non plus. Mais en l'occurrence, on avait peut-être un peu plus de mal à le situer. C'est un joueur qui, à l'issue de sa saison sophomore, donc j'en parlais en 2020, était considéré comme un premier tour en puissance.
un peu à l'image de son équipe, ça a été plus compliqué cette saison. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une si grosse différence que ça entre ce que tu as vu en 2020 et en 2021 de la part d'un profil qui reste quand même assez dominant?
Bah, la différence, c'est qu'il a été moins bon. Mais comme tu l'as dit, Northwestern a été moins bon de toute façon. Alors, tu peux aussi briller dans une équipe moins bonne, mais c'est vrai qu'on attendait quand même une progression plus importante. Après, moi, c'est vrai que j'étais quand même haut sur lui. Je voulais absolument parler de lui parce que son potentiel. Je veux dire, voilà, 6 interceptions en 2020, 3 encore cette année. Je veux dire, il a une capacité en couverture. On le dit depuis le début du podcast, un safety, ça doit savoir faire plein de choses, mais la couverture aérienne pour un joueur, pour un defensive back, c'est quand même la base. Et lui, il peut apporter ça. Il est grand. Il a la taille pour défendre les Titans. Il a la taille pour défendre des receveurs dans la red zone, dans la end zone. Il a une bonne lecture des quarterbacks. Et ça, forcément, c'est prisé. Alors après, c'est clair, par rapport à d'autres profils qu'on a déjà évoqués, il est moins complet. C'est-à-dire que, par exemple, contre la course, oui, il fait des plaquages, mais c'est pas du tout le meilleur plaqueur. On l'a vu faire pas mal de plaquages ratés. Des fois, c'est parce qu'il n'arrive pas à attraper le coureur s'échappe. Des fois, c'est parce qu'il prend le mauvais angle. Il y a encore du travail à ce niveau-là. Mais par contre, ses capacités en couverture, et puis ne serait-ce que même que son physique, ses qualités athlétiques, etc., tu vois le potentiel. Et la draft, c'est aussi ça. C'est aussi de voir un joueur qui t'offre tout un panel de potentiel et tu te dis, ben voilà, dans mon système, avec un bon coaching, je pourrais en faire quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que Brandon Joseph, s'il se présente à la draft, pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais s'il se présente, il sera forcément prisé. Alors, il ne sera pas prisé comme un premier tour, mais il a quand même un sacré potentiel.
Oui, oui, clairement. Il y a une donnée peut-être à prendre en compte également, c'est il y a eu aussi un changement de coordinateur défensif du côté de Northwestern entre les deux saisons. Et il y a aussi également un rôle qui a sans doute été différent attribué à Brandon Joseph dans une défense où notamment au niveau du front four, ça a quand même été un peu plus poussif à mon sens. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, c'est des éléments qui peuvent expliquer le changement de visage relatif, en tout cas de Brandon Joseph, en tout cas des penchants, on va dire, à tâtonner un petit peu en fonction des situations. Après, tu te disais, des prises d'angle, enfin des mauvaises prises d'angle en l'occurrence. C'est pas uniquement, ça incombe pas uniquement au système qui est mis en place autour de lui. Et il y a peut-être des données techniques qui vont être à perfectionner autour de ce joueur-là. Mais voilà, physiquement et athlétiquement, ça a été pour un joueur qui était principalement utilisé comme strong safety à la base du côté de Northwestern. Il a eu un volume de jeu assez conséquent. Encore une fois, et je le répète, dans une conférence Big Ten où on demande de savoir faire plein de choses de par les différentes attaques qu'on est amené à affronter. Donc c'est sûr qu'en l'occurrence, Brandon Joseph, pareil, hein, c'est peut-être un solide troisième tour, voire plus peut-être s'il a encore et marque des points du côté du combine, mais ce sera forcément à surveiller à partir du mois de février.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais.
Très bien. Bah, écoute, on va pouvoir passer au prospect suivant, un prospect qui vient du groupe of five de Memphis. En l'occurrence, on va parler de Quindell Johnson. 104 plaquages cette saison du côté des Tigers, donc 4,5 pour perte, 11 passes défendues et une interception pour le longiligne safety de Memphis. Les stats parlent d'elles-mêmes, hein, j'ai presque envie de dire. Alors là, forcément, je ne sais pas. Alors, moi, la question que je me pose là-dessus, c'est peut-être un joueur qui va peut-être moins faire fantasmer les scouts que les joueurs qu'on a évoqués précédemment. Après, il y a une telle production et je trouve qu'il y a vraiment un profil de playmaker dans ce Quindell Johnson. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah oui, moi j'en pense beaucoup de bien. Déjà, moi, l'année dernière, en 2020, j'étais vraiment séduit par ce joueur. Je l'attendais cette année et je trouve qu'il a confirmé. C'est vrai qu'on regarde peut-être un peu moins les matchs de Memphis, mais bon, les scouts, eux, ils regardent tous les matchs, il n'y a pas de souci. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur. Comme tu dis, ses stats, elles sont parlantes. 104 plaquages, c'est quand même pas pour rien. Ça veut dire quelque chose. Et puis, 11 passes défendues encore en 2021, 11 passes défendues. On rappelle, les passes défendues, ça veut dire qu'il empêche la réception. Voilà. Soit il dévie le ballon, soit il déloge le ballon des mains du receveur. Enfin, c'est pas comme une interception, mais c'est quand même très, très précieux. Et voilà, c'est un safety qui a vraiment le profil polyvalent. C'est-à-dire que pour moi, dans une cover 2, par exemple, où tu as les deux safety qui sont un petit peu interchangeables, il pourra tout faire. Après, dans notre système, je pense qu'il peut jouer le poste de free parce que, comme tu disais, il est grand, il est lancé, il a de très bonnes capacités en couverture. Donc, moi, c'est un joueur que vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Quindell Johnson. Je voulais absolument en parler.
Ouais, tout à fait. Il est extrêmement actif. Hein. Très franchement, même quand il n'est pas forcément dans la zone du receveur qui est ciblé. Voilà, c'est un joueur qui va quand même tout faire pour gêner la visibilité du quarterback, qui peut apporter un petit peu. Alors la pression, c'est pas son rôle premier, mais en tout cas, il peut monter très rapidement. Pour revenir à ce que tu disais, voilà, c'est un joueur qui est capable d'apporter le surnom très rapidement. Et oui, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai souvenir notamment d'un match en début de saison contre Mississippi State, où là encore, Mississippi State s'est monté en puissance au fil de la saison. Il les joue en début d'année. Mais en tout cas, dans ce qui était pas encore, mais ce qui peut l'être au vu du scénario de la saison, ce qui peut être considéré comme un upset, à savoir la victoire de Memphis contre la grosse attaque aérienne de Mississippi State, il faut voir l'impact qu'a eu un Quindell Johnson avec énormément d'actions clés, où il annihile l'attaque de l'attaque des Bulldogs sur des troisièmes tentatives, sur des conversions à deux points. Et mine de rien, c'est ce qui fait la différence à l'arrivée. Alors après, le chantier était tel du côté de Memphis que la saison n'a pas forcément été aussi concluante que prévu. Mais ce n'est pas de la responsabilité de Quindell Johnson. Et là, ouais, on est sur un joueur qui sait faire énormément de choses, dont le plafond est peut-être moins élevé que d'autres. C'est là aussi où je voulais en venir. Mais oui, a priori, on sait à peu près ce qu'on récupère. Le plancher paraît très stable, pour reprendre les termes appropriés.
Oui. Et puis un plancher de couverture en plus. C'est vrai qu'on le répète quand même beaucoup dans ce podcast, mais c'est important. Et tu vois, pour nos auditeurs qui suivent pas forcément le football universitaire, tu parlais de Mississippi State, on l'a un petit peu évoqué la semaine dernière en parlant de Charles Cross, mais Mississippi State, c'est entraîné par Mike Leach, une attaque très, 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 très aérienne. Voilà. Et donc, quand tu te projettes ensuite sur la NFL, ben, tu te dis qu'un joueur comme Quindell Johnson qui est performant contre une attaque aérienne, ben, en NFL, ça va forcément t'apporter des choses. Donc, rien que pour ça, déjà, voilà, il a une belle cote. Alors, une belle cote, pour moi, c'est plus ouais, une première partie de troisième tour. Mais bon, c'est quand même un choix important. C'est avant le top 100, de toute façon. Et moi, je pense que oui, c'est quelqu'un qui pourra s'imposer en NFL et y trouver une place de titulaire.
Oui, très clairement. Moi, je pense qu'il a largement les épaules pour être dans les trois premiers tours. Et là encore, bon, on se répète, hein, mais oui, c'est sûr que le processus draft aura son importance très clairement, notamment pour ce type de joueur. On va terminer avec le troisième joueur. Alors, on aurait pu prendre plein de profils dans ce tier 3, où, on le répète, il y a une densité telle. Je sais qu'on avait cité notamment les Wistin, par exemple, de Georgia, qu'on aimait tous les deux beaucoup. Il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu évoquer. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres noms qui te passent par la tête. Mais
oui,
en tout cas...
comme Jalen Pitre de Baylor.
Oui, oui.
C'est une belle classe. Après, il faut voir comment Bubba Bolden de Miami va revenir de sa blessure. Enfin, il y a de la profondeur dans cette QV.
Oui, tout à fait. Alors, on a pris un profil assez atypique. On parlait tout à l'heure de Verron McKinley, pardon, qui était très doué sur la couverture, mais peut-être moins dans d'autres secteurs. On va parler d'un joueur qui est très doué sur le run stop, mais un peu moins dans d'autres domaines. Je sais déjà que Victor Roulier doit être un énorme fan de ce joueur, je n'en doute pas. Toi, je sais que tu aimes notamment le joueur de par son nom, j'en suis persuadé. Smoke Monday, donc safety d'Auburn, joueur établi hein, de la défense des Tigers, une solide défense globalement. Hein. On a vu que c'est une équipe qui a posé des problèmes, notamment à l'attaque d'Alabama il n'y a pas si longtemps que ça. Smoke Monday, bien entendu, j'ai plus ses stats sous les yeux, je vais les retrouver tout de suite, mais... On va le dire très clairement, et ça revient à ce qu'on disait, gros cogneur, mais là, si on s'intéresse au QI foot, c'est peut-être un peu plus limité que les joueurs dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Bon, avant d'entrer dans le détail, on va déjà casser le mythe, je suis désolé. Smoke, ce n'est pas son vrai prénom. Voilà. En fait, il s'appelle Quindarius. Quindarius. Et donc, du coup, je me suis demandé, mais pourquoi Smoke ? Pourquoi Smoke ? Et en fait, bon, c'est tout simple, c'est quand il était enfant… Il courait tout le temps autour de la maison familiale et c'est son grand-père qui l'avait surnommé Smoke parce que voilà, et comme il faisait que courir, on voyait presque de la fumée derrière lui, etc. Donc, il a ce surnom depuis tout petit. Donc, du coup, tout le monde l'appelle Smoke, y compris sur le site officiel d'Auburn, c'est Smoke Monday. Voilà. Donc, c'est très bien, mais bon, c'est un peu comme Kool-Aid McKinstry, c'est pas son vrai prénom, en fait.
Oui,
bon.
Ou Sauce Garner, dont on parlera assez régulièrement. Ou Dabo Sweeney, on rappelle, c'est pas son vrai prénom non plus. On pourra en faire plein comme ça.
Bon, sinon Smoke, on va continuer à l'appeler Smoke. Hein. Mm-hmm. Comme tu l'as dit, il a quand même fait 4 saisons en SEC. C'est la meilleure conférence universitaire. 4 saisons, dont 2 comme titulaire. Et oui, tu l'as dit, il n'y a pas de surprise, c'est un gros cogneur. Et il en faut aussi. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on met l'emphase sur la défense aérienne, etc. Mais un safety, c'est aussi la défense contre la course. Et alors, un gros cogneur, c'est spectaculaire, ça nous fait plaisir. Mais de toute façon, il faut arrêter le joueur, que tu le fasses avec un gros stop ou tout simplement… Ben lui, de toute façon, il stoppe. Voilà, il te stoppe le coureur, il te stoppe les receveurs quand il capte une screen, il te stoppe le quarterback parce qu'il fonce, il fait un blitz. Voilà, c'est un joueur qui est plutôt grand, qui est plutôt athlétique. Alors, je vais pas dire que c'est un linebacker, c'est vraiment un safety, mais après, ça dépend des systèmes. Si on prend, par exemple, la cover 3 des Raiders, je veux dire, tu le mets sur le second rideau comme un linebacker, un petit peu comme un Jonathan Abram, quoi. Et donc, à partir de là, ben, il va chasser les coureurs, il va attaquer le quarterback, il va se rediriger de la gauche vers la droite pour arrêter un coureur. C'est quand même, c'est précieux, c'est précieux. Alors, c'est moins précieux que quelqu'un de délié qui défend la passe, comme on en a parlé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il sera pris un peu plus tard et sans doute le samedi de la draft, c'est-à-dire entre les tours 4 et 7. Mais on voulait en parler justement parce qu'il a ce profil différent et qu'un safety, c'est aussi ça. C'est aussi un joueur qui va au mastic, qui va au choc et qui défend la course.
Oui, c'est ça, un joueur qui peut apporter de l'intensité, que ce soit en défense ou sur équipe spéciale d'ailleurs, hein, parce que je pense que Spunk Monday est largement capable de le faire. J'ai retrouvé ses stats tout de suite, c'est 58 plaquages en 2021, dont 8 pour perte, 2 sacs, 5 passes défendues et un pick 6. Donc globalement, voilà, il remplit pas mal de colonnes, si on peut appeler ça comme ça. Après voilà, c'est vrai que par d'autres profils que tu évoquais, et c'est peut-être là aussi le danger quand c'est un profil entre guillemets quasi exclusivement de run stopper, en tout cas plus amené à être un run stopper principal en NFL. Il y a un côté discipline quand même sur lequel il faut faire attention. Tu vois, on avait parlé d'un Jacoby McLean sur un précédent podcast du côté d'Auburn. Je vois plus cette aptitude à être discipliné au plaquage pour un Jacoby McLean que pour un Smoke Monday qui peut frustrer pas mal de par son côté, roquette, quoi. Et j'arrive et puis, bah, attention, poussez-vous. Si ça tape, tant mieux. Si ça tape pas, bon, bah, j'aurais essayé. C'est ce qui peut être un peu frustrant. Et ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais sur Jonathan Abram. Je crois savoir que c'est un joueur qui peut en frustrer quelques-uns. Donc voilà, je pense que la comparaison ne me paraît pas galvaudée. Mais c'est un profil assez intéressant. Et en effet, moi, dans mon esprit, et on avait un petit peu échangé en off, c'est vrai que je le vois peut-être plus aux alentours du quatrième que du troisième. Mais c'est aussi lié très clairement à une classe de draft qui peut être amenée à un moment donné à pousser les franchises à se dire bah, « moi, je préfère ce type de profil ». Plutôt qu'un autre. Donc voilà, c'est aussi pour ça. C'est peut-être pas un meilleur joueur par rapport à d'autres dont on aurait pu parler, mais c'est en tout cas un profil purement atypique, peut-être pas le plus adéquat pour jouer notamment sur 3 tentatives, mais en tout cas le plus atypique et voilà, qui rentre dans une autre catégorie que ceux qu'on a abordés précédemment. On va terminer cette émission, si tu veux bien, Jean-Mi, avec un autre joueur de la conférence SEC qui sera notre sleeper au poste de safety, un défenseur de South Carolina, puisque tu vas nous parler de Jalen Foster, dont je vais retrouver les stats tout de suite. C'est 91 plaquages, dont 5 pour perdre du côté des Gamecocks, 2 sacs, 2 passes défendues et 5 interceptions. Joueur qui s'est vraiment révélé hein, cette année dans la globalement jeune défense de South Carolina. Et qu'est-ce que tu y trouves de plus particulièrement et vers où tu le vois pour en faire un sleeper?
Alors déjà, pour... Niveau sleeper, je pense qu'on parle d'un vrai sleeper. C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Quand je dis vrai sleeper, c'est-à-dire que pour moi, c'est un joueur qui sera pris, je pense, au niveau du 7e tour et peut-être même signé après la draft. Voilà. Mais je voulais en parler parce que quand tu regardes les effectifs NFL des 32 équipes, mais tu as quand même énormément de joueurs qui sont juste undrafted free agent, je veux dire, qui sont signés après la draft et qui finalement arrivent à trouver une place. Et je trouve que Jalen Foster, c'est tout à fait ce profil-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas un gabarit exceptionnel, il n'a pas une qualité exceptionnelle, mais en même temps, il fait un peu de tout. Tu as rappelé ses stats, 91 plaquages et 5 interceptions. Donc, c'est quelqu'un qui est précieux contre la course, qui est précieux contre la passe. C'est quelqu'un dont tu imagines très bien qu'il pourra apporter en équipe spéciale. Et puis, si je voulais en parler, c'est aussi parce que quand on parle de sleeper, enfin, moi, en tout cas, quand j'y pense, je pense plutôt à des équipes plus modestes, tu vois, par exemple, un Rashad Wisdom de UTSA, où on aurait pu parler de Reed Blankenship, par exemple, de Middle Tennessee State, tu vois, des petites facs un petit peu comme ça, il y a des très bons joueurs, des petites pépites, quoi. Mais il y en a aussi plein dans les gros programmes. Ce sont pas des joueurs majeurs de leur programme, mais ils ont cette expérience-là. Après, ce qui fait aussi de Jalen Foster un sleeper, c'est pas seulement son gabarit, c'est aussi son âge. Il faut quand même comprendre qu'en 2021, c'était sa 6e saison universitaire. Voilà. A priori, la plupart des joueurs qui sont draftés, ils le sont après 3 ans après le lycée. Et lui, ça fera 6 ans après le lycée. Donc forcément, les scouts NFL se disent qu'avec ce joueur, ce que tu vois là maintenant, c'est à peu près ce que tu auras et la marge de progression est moins importante. C'est quelqu'un qui a passé 2 saisons au niveau FCS, donc le niveau en dessous. Et puis ensuite, il a rejoint South Carolina. Et finalement, il a été très précieux dans une très bonne conférence. Donc, c'est un joueur qui est complet, qui peut apporter dans une rotation, qui peut apporter en équipe spéciale. Parce qu'on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais les safety, ils ont vraiment le gabarit idéal pour jouer en équipe spéciale. Parce que généralement, ils ont la taille qu'il faut, ils ont les qualités athlétiques qu'il faut. Et donc, forcément, quand tu dois défendre des coups de pied, que ce soit des coups d'engagement ou que ce soit des peintes, ben, il te faut ce type de joueur-là. Et donc, tu as toujours pas mal de safety qui sont à la fois dans ton 53 et à la fois dans ton practice squad que tu vas faire remonter si tu as besoin, une blessure, etc. Et moi, je pense qu'un joueur comme Jalen Foster, il a tout à fait ce profil-là. Et c'est pour ça que je voulais en parler.
Oui, oui, bah écoute, je ne vais pas rajouter énormément de plus de choses que toi, mais surtout qu'on parle d'un joueur, en effet, ou qu'on n'attend pas spécialement dans les trois premiers tours. Voilà, il y a ce côté en effet qui peut jouer contre lui, et je te rejoins totalement, la marge de progression où là je pense que dans beaucoup d'esprits ça peut paraître quasi nul, même si elle a quand même été assez fulgurante hein. Il a partagé pas mal de snaps l'an dernier au niveau du backfield défensif des Gamecocks, c'était clairement moins le cas cette année, et on a vu que l'impact n'était pas le même, donc on peut se dire que malgré tout il y a une certaine maturité qui lui permet de se développer un petit peu. Après, c'est sûr que ce sera peut-être pas forcément en continu encore pendant beaucoup de saisons, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un joueur qui encore une fois va se battre pour sa position. Sur la couverture, il y a du bon et du moins bon. Je ne vais pas l'appeler un gambler parce qu'il faut peut-être pas exagérer, mais voilà, ça peut être une action positive, une action négative. Après, encore une fois, on le répète dans la conférence sec, il y a des attaques de plus en plus explosives dans les airs, donc forcément, si on n'a pas un aussi grand talent que d'autres, bah on va peut-être pas forcément briller sur toutes les actions, mais voilà, je rejoins globalement tout ce que tu as dit. Il y a des points positifs à mettre en avant pour Jalen Foster, notamment sur les équipes spéciales dans un premier temps, et c'est un joueur qui peut éventuellement se faire sa place dans un premier temps dans ce domaine-là, et qui peut être facilement un joueur de rotation au moins dans les premières saisons. Donc ouais, faudra voir très clairement, je te rejoins, peut-être 6-7, on va dire, pour être optimiste, mais c'est vrai qu'il y a énormément de bons joueurs, on aurait pu en citer d'autres. Hein, quand même. Si on veut faire du name dropping, moi j'aime beaucoup Nick Cross également de Maryland, je le dis.
Ah oui.
Je l'aime beaucoup, mais encore une fois, on aurait pu citer énormément de sleepers, et de toute façon, la saison de draft est tout sauf terminée, elle n'est même pas officiellement commencée, parce qu'on ne connaît pas l'ordre de la draft à l'heure où on enregistre cette émission. Donc, on aura le temps d'en dire encore beaucoup, beaucoup de choses. Merci encore, en tout cas, Jean-Mi, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve de nouveau la semaine prochaine. Alors, malheureusement, il n'y aura pas Victor Roulier, notamment parce qu'on va parler des running backs, mais ce sera comme toujours un plaisir de t'avoir en ma compagnie. D'ici là, on vous le répète, passez de très, très bonnes fêtes à l'écoute de Touchdown Actu. Vous retrouvez dans quelques jours, notamment, le débrief de la 16e semaine de saison régulière. D'ici là, passez donc une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA. Oh là là, la boulette. avec plein de boules, notamment du college football. Mais voilà, restez bien en tout cas à l'écoute de Touchdown Actu. Pour te suivre sur les réseaux sociaux, c'est ça que j'ai oublié, Zappa1309 sur Twitter et Yellow Radio, ça me concernant. Salut à tous et restez donc bien à l'écoute de Touchdown Actu.
Et joyeux Noël.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Meilleure recette dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklass Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.